Donc, je vais inviter Adèle, groupe 6, construire un État-nation et un État de droit dans le Kurdistan irakien. Adèle.
Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je vais faire comme mon collègue irakien. Je vais parler kurde. Tout le monde comprend ? Non, mais je... le groupe sur le Kurdistan irakien a une spécificité. Mais avant d'entrer dans ces spécificités, j'aimerais bien faire trois remarques. Et si je parle vite, les interprètes... prévenez-moi. Alors, la première remarque, c'est la volonté du départ, la volonté de la mise en place de ce groupe ou la constitution de ce groupe. Au départ, avec Michel Vivoca, on voulait mettre en place un groupe constitué des chercheurs non kurdes, pour produire une connaissance scientifique objective sur l'objet kurde. Mais malheureusement, comme d'habitude, comme toujours, vous avez de l'expérience, les contraintes financières s'imposent. Constituer un groupe de chercheurs non kurdes, ce que je voulais faire aussi au départ, un chercheur américain qui travaille sur le monde kurde, un chercheur britannique, un chercheur français bien évidemment, un chercheur allemand et surtout un chercheur arabe, un chercheur turc, un chercheur iranien qui travaille sur le monde kurde. C'était l'idéal, mais malheureusement cet idéal n'était pas disponible pour ces raisons, parce que tout simplement ce groupe doit faire 3 réunions pendant les 18 mois à venir, et avec ce petit budget, 15 000 euros, c'était impossible. Donc comment faire? Et on voulait intégrer les chercheurs kurdes dans les autres groupes, sur la radicalisation, parce qu'on a un chercheur confirmé qui travaille sur les 500 à 2000 Daesh kurdes qui sont en train de revenir vers le Kurdistan irakien, qui est une menace. Et ce chercheur lui-même a déjà enregistré 175 heures de paroles des Daesh kurdes dans les prisons de JRK. Donc, c'était très important de l'intégrer dans un groupe de recherche. Mais malheureusement, le groupe sur la radicalisation des radicalisés, il y avait déjà 11 chercheurs, il n'y avait pas de place. Et donc, voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a constitué un groupe, pour l'instant, avec des chercheurs kurdes. Les chercheurs kurdes qui travaillent sur l'autre monde, sur l'univers kurde. Alors, ça, c'était la première remarque. Mais... aujourd'hui, grâce à un échange avec le président de la fondation d'Abran Malavartiar, nous avons de bons espoirs réels que la fondation d'Abran finance 4 chercheurs non kurdes de notre groupe, c'est-à-dire ajouter encore 4 chercheurs à ce groupe avec la subvention de d'Abran. Alors, donc, on a abordé le sujet. On souhaite inviter un chercheur américain qui a fait de bon travail sur l'univers kurde, un chercheur turc, un chercheur français et un chercheur arabe. Voilà les 4 chercheurs qu'on souhaite intégrer dans l'avenir, et d'ici avril, à notre groupe. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque. Je me vois dans l'obligation de préciser ce principe. Les chercheurs kurdes qui se trouvent dans ce groupe, il ne faut pas les caricaturer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les présenter comme des militants. En fait, on présente toujours le kurde comme le militant éternel de la cause d'indépendance du Kurdistan. Il peut être, je ne sais pas moi, professeur d'université, sociologue, anthropologue, politologue. Mais avant tout, c'est l'indépendance du Kurdistan. Non, 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 non. Les chercheurs kurdes, ils sont là. Et pendant leur projet de recherche, ils ne sont pas kurdes, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas kurdistanais, ils sont des chercheurs point barre. Leur objectif, c'est quoi? C'est produire un savoir scientifique sur leur objet. Et c'est des chercheurs avec des livres et des livres, des recherches publiées en arabe et en kurde. Voilà, ça c'est un point très intéressant à souligner parce que j'entends. Ça, et la deuxième remarque, la troisième remarque, la troisième remarque à préciser. Je tiens à préciser la troisième remarque, c'est le terme de kurde et kurdistanais. Nous ne travaillons pas sur l'univers kurde. Même si moi-même, je l'utilise, j'emploie cette expression. On travaille sur l'univers kurdistanais. On ne travaille pas sur le kurde. On travaille sur le kurdistanais. On ne travaille pas sur le peuple kurde. On travaille sur tous les peuples qui vivent au Kurdistan irakien. Parce qu'au Kurdistan irakien, comme j'ai dit hier pendant l'interview, on m'a posé la question, le kurde, le peuple kurde. Non, j'ai dit, je suis désolé, je dois reformuler la question. Je ne travaille pas, nous ne travaillons pas sur le peuple kurde. Au Kurdistan irakien, on a bien évidemment le peuple kurde, mais à côté des Kurdes, on a le peuple arabe, on a le peuple turcoman, on a le peuple juif, on a le peuple assyrien. Enfin, on a une pluralité de peuples. C'est pourquoi la terminologie qui s'impose aujourd'hui, ce n'est pas le kurde, c'est le kurdistanais. Dans la terminologie kurdistanais, le nom kurdistanais, tout le monde peut s'identifier et se reconnaître. Voilà. Alors, donc, encore une dernière remarque. J'ai entendu cette petite remarque. Quel est le rapport entre un État-nation, l'indépendance du Kurdistan et la question de la violence? Il y a un rapport, il y a un fort rapport entre cette problématique et la question de l'indépendance du Kurdistan. Comme hier, j'ai dit pendant le comité de pilotage, depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, 2017, la question kurde en Irak, en Turquie, en Syrie, en Iran, c'est un principe générateur de violence. De violence de toutes les catégories. La violence des acteurs étatiques contre les acteurs non étatiques, savoir les Kurdes, Téhéran, Ankara, Damas, Bagdad, la violence continue. Et les violences des acteurs non étatiques, les Peshmerga, les combattants de PKK en Turquie, Peshmerga en Irak, YPG en Syrie, les partisans du Parti démocratique iranien en Iran, Komala, Pjak. Enfin, je voulais dire, la violence est là. La violence est là en chair et en os. S'il y a un lien dynamique entre la question kurde et la violence. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on entre dans une autre phase. La violence généralisée au Moyen-Orient. On est dans... Est-ce que je parle vite? Ça va, ok. Ce Moyen-Orient qu'on a connu pendant 85 ans est entré dans le processus de la décomposition. La décomposition en Libye, au Yémen, en Syrie, en Irak, partout. Il est tout à fait légitime de poser la question d'où point le moment kurde. Le moment kurde. Est-ce qu'on vit vraiment comme la revue politique étrangère a posé le moment kurde? Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on s'approche de cette probabilité de l'indépendance du Kurdistan? Ou pendant mon interview avec le journal du Monde, j'ai dit il faut ajouter S, la lettre S, des Kurdistan. Kurdistan syrien, Kurdistan irakien, du fait depuis 1991-2017 à une indépendance. Alors, est-ce que cette indépendance, cette probabilité de l'indépendance du Kurdistan, qui est par définition, au moins en Irak, égale à la fin d'un État qui s'appelait et qui s'appelle encore Irak, va générer une nouvelle catégorie de violence entre un État qui s'appellera le Kurdistan, la République kurdistanaise, ou je ne sais pas comment on l'appellera, et l'État irakien, ou la mise en place d'une indépendance du Kurdistan va pacifier toute une région. C'est-à-dire va pacifier cette violence de 85 ans entre Bagdad et Erbil, mais aussi entre Ankara et sa propre population kurde. Parce que vous le savez si bien, la question kurde, comme on le dit aujourd'hui, c'est une question transfrontalière. Cette question kurde n'est plus réduite dans les montagnes du Kurdistan. Il y a des échanges culturels, il y a des échanges économiques, il y a des échanges scientifiques, il y a des échanges de toutes les natures entre les quatre Kurdistans. Les frontières, ils sont là théoriquement, mais pratiquement, ils sont pliés, ils sont plus là. Alors, donc, est-ce que l'indépendance du Kurdistan va provoquer une nouvelle catégorie de violence avec ou contre Bagdad, Ankara, Damas et Téhéran, ou au contraire, cette indépendance fait sortir des Kurdes de leur sentiment de frustration de ne jamais avoir un État? Et pourtant, un des grands peuples du monde, comme vous dites, hein, le peuple kurde, mais moi je parle du peuple kurdistanais, si vous me permettez, à préciser, et les peuples kurdistanais, exactement, merci, n'ont jamais. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour sortir de cette frustration et pacifier d'une manière globale toute la région au Moyen-Orient? Et donc, pour répondre à toutes ces questions, le groupe a travaillé pendant les 2 jours. Je suis vraiment désolé, je suis un peu épuisé. Je dois gérer à la fois la délégation kurde, mon groupe. Bref, nous avons identifié 7 axes pour traiter cette question de la pacification ou de l'émergence d'une nouvelle ou des nouvelles catégories de violence à partir de ce cas qu'on appelle l'indépendance du Kurdistan irakien. Alors, le premier axe, c'est le système régional. Une fois l'indépendance, on a 2 systèmes. Le système régional, lorsqu'on dit le système régional, on parle de Bagdad, de Téhéran, de Damas, d'Ankara, mais aussi et surtout de Riyad et de Caire. Comment ces capitales-là, comment ce système régional traite la question de l'indépendance du Kurdistan? Sans oublier qu'aujourd'hui, il y a 15 milliards de dollars d'échanges économiques entre Ankara et Erbil. Et 7 milliards de dollars d'échanges économiques entre Téhéran et Erbil. Quand je dis Erbil, c'est-à-dire le Kurdistan irakien. Comment le système régional, mais aussi le système international, c'est-à-dire Washington, Londres, Paris et Moscou, et là je m'arrête, traite la question de l'indépendance du Kurdistan. Et on a déjà un chercheur confirmé, M. Soran Mohamed, sur cet axe. D'accord. Ok, très bien. Un deuxième axe sur lequel notre groupe va travailler, c'est les bases économiques de l'indépendance du Kurdistan. Et notamment et surtout le rôle du pétrole dans le processus de l'indépendance du Kurdistan, tout en sachant que le pétrole constitue la part de 94% de notre système économique. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. Et là, on a un autre chercheur, M. Oumed Mohamed, qui est professeur à l'université de Souleymaniye, qui travaille, qui est lui-même professeur d'économie, qui travaille sur cet axe. Alors, dans l'hypothèse d'un Kurdistan indépendant, quel système politique attend cet État? Le totalitarisme, l'autoritarisme, la dictature, ou le système bipartisme, basé sur le bipartisme, c'est-à-dire l'UPK et le PDK depuis 91. Depuis 91, le Kurdistan irakien est géré par l'UPK de Talabani et le PDK de M. Barzani. Les zones sont séparées, les zones d'influence, la population, etc. Quel système politique? Ou le tribalisme, ou la famille, ou la plus grande hypothèse, c'est la démocratisation, un système politique basé sur la démocratisation et la société civile. C'est, sur cette question, on a déjà une chercheuse kurde, une chercheuse kurde qui travaille et elle a fait son doctorat en Angleterre. Alors, il nous reste quoi?
3 minutes.
3 minutes. Le KTMEC, c'est le système éducatif et la question de l'indépendance. Le système éducatif et la question de l'indépendance. Ce système éducatif mis en place depuis 91-2017 a produit, selon notre chercheur qui travaille sur cette problématique, a produit des individus, pour parler Michel Vurcam, ou pardonne, comme Pierre Bourdieu, ils avaient un système de disposition prédisposé à fonctionner comme générateur de violence. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ce système éducatif a préparé, a produit, a généré des générations qui ont fait la guerre civile entre 1994-1998. Il y a eu à peu près 3000 morts. Aujourd'hui, où on est avec ce système éducatif ? Comment ce système éducatif prépare la nouvelle génération kurde qui ne parle pas, mais pas un mot arabe, ou rarement, qui parle, enfin, qui parle très bien l'anglais, mais par contre, en même temps, qui est encore, selon notre chercheur, enraciné dans les principes religieux. Voilà. Comment se débarrasser, selon notre recherche, comment dépasser, comment faire réformer ce système éducatif si ça reste à l'état actuel, selon lui, la reproduction de la violence, même après l'indépendance, à l'intérieur du Kurdistan, sera une grande hypothèse probable. Voilà. Ensuite, le cinquième axe, comment les islamistes kurdes, comment les islamistes kurdes traitent la question de l'indépendance du Kurdistan ? Est-ce qu'ils sont, bien évidemment, depuis 1996, ils sont intégrés dans le champ politique kurde ? Est-ce qu'ils ont adopté la question de l'indépendance du Kurdistan ou ils perçoivent la question de l'indépendance comme une menace sur leur structure idéologique, organisationnelle, etc. Et surtout la troisième génération djihadiste, entre 5000, comme je l'ai dit, 5000 et 2000 Kurdes. Je vous donne un indicateur. En 2013, il n'y a eu que 5 terroristes qui ont conduit des opérations au Kurdistan irakien. Le 2 décembre 2016, il y a eu 1265 terroristes au Kurdistan irakien qui ont conduit des opérations, des différentes opérations. Donc, comment l'indépendance du Kurdistan est traitée par les islamistes et comment les islamistes traitent ces radicaux, comment le système politique kurde se comporte avec ces islamistes. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le sixième avant-dernier axe, c'est le rôle de la diaspora kurde dans la construction étatique. Le Kurde qui ne s'est jamais senti irakien, qui ne s'est jamais senti turc, ou syrien, ou iranien, arrive en France ou en Angleterre, il obtient la nationalité. Il devient britannique, pour ne pas dire anglais. Il devient français. Tout de suite, il se voit comme un citoyen à part entière. Cet État-là, la diaspora kurde, qui depuis 1920 se trouve à Londres. Londres, c'est la deuxième ville au Kurdistan irakien. Après Erbil, et Suleymanie, on parle de Londres comme notre deux ou troisième ville. Donc, quand je me promène à Londres, j'ai l'impression que je suis à Suleymanie ou Erbil. Alors, comment cette diaspora kurde, à la fois à Londres, mais aussi en France, participe à la construction de cet État, un nation qu'on l'appellera la République ou la monarchie, ou je ne sais pas moi, l'indépendance du Kurdistan. Alors, le dernier axe pour lequel qu'on n'a pas encore trouvé un chercheur. Voilà, l'annonce est faite. C'est le rôle des Peshmerga. C'est le rôle des Peshmerga dans l'indépendance du Kurdistan. Et j'aimerais tout de suite... aujourd'hui, les Peshmerga protègent 1025 kilomètres des zones détachées du Kurdistan irakien. D'accord, 1025 kilomètres. Les Peshmerga ont donné à peu près 2400 martyrs contre Daesh. Cette force-là, la question posée, est-ce qu'avec l'indépendance du Kurdistan, entre dans la stratégie de la milicisation ou la stratégie de la nationalisation? Alors, c'est pas un secret, vous êtes tous des chercheurs, vous savez très bien que ces forces-là, seulement 26% de ces forces dépend encore le GRK. La majorité absolue dépend de l'UPK et le PDK. Est-ce qu'avec la question de l'indépendance, on entre dans la logique de la milicisation autrement dit, de la soudanisation ou somalisation de l'indépendance du Kurdistan. L'indépendance est déclarée, ok, d'accord, mais après, comme le sud du Soudan ou la Somalie ou enfin, dans d'autres pays, voilà, où les Kurdes ils sont assez mûrs aujourd'hui, l'UPK et l'OPDK sont assez mûrs politiquement pour constituer une armée régulière, institutionnalisée. Enfin, je vous remercie de votre attention. Voilà. Voilà.
Merci Abdel. Alors, j'ai oublié de présenter Adel, qui est chercheur associé à l'École de hautes études en sciences sociales à Paris et chargé de cours de sociologie à l'Université d'Evry. Il est responsable du Bureau Europe de la Fondation Rupture pour la démocratisation de la société kurde. Alors, ses recherches portent sur l'islamisme et les mouvements politiques au Kurdistan.
Ouais, je précise la société kurdistanaise, pas la société kurde.
Kurdistanaise. Merci pour la précision et la nuance.